Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans votre émission Historia. Bonsoir à Damien, notre technicien. Et voilà, nous espérons, chers auditeurs, que la saison nouvelle vous apportera du plaisir, un peu de connaissances et que nous garderons votre fidélité. Alors, pendant quelques numéros d'Historia, nous allons vous faire voyager sur une île, bien loin de chez nous, au nom exotique donné en ce temps-là, Cipango. Mais restons des Occidentaux humbles, et disons le Japon. Or, là-bas, ces guerriers dans la rizière vécurent un bon millénaire, bâtirent des mythes et des légendes, bien évidemment assez éloignés de la réalité ou de la vérité historique. Mais oui, ils se sont adaptés plutôt bien, plutôt bien. Ils étaient capables d'une extrême violence, même envers eux-mêmes d'ailleurs, sauf qu'ils étaient aussi des lettrés, des administrateurs, des amateurs de théâtre, d'art et même, assez surprenant, des amateurs de thé, des fins connaisseurs. Soyons clairs, malgré un code d'honneur figé, ils ont façonné le Japon moderne, tiraillé entre les valeurs ancestrales et modernité. Car ils trahissaient facilement, suivant l'opportunité, autant d'ailleurs qu'ils se sacrifiaient pour l'honneur et par devoir. Oui, ils avaient un code et ils le respectaient. Parfois. Nous les verrons partis de rien, pour arriver au plus haut sommet, du moins pour quelques-uns. D'autres se vendirent tout simplement comme mercenaires, et d'autres encore devinrent tout simplement des solitaires. Mais tous avaient en commun le sens aigu du devoir, ne s'aimaient pas forcément entre eux, mais se respectaient toutefois. Pourtant, ils ont vécu si longtemps. Et pourquoi ? Pourquoi furent-ils, pour les générations suivantes, des exemples à suivre ? Et pourquoi furent-ils oubliés ? Mais justement, d'ailleurs, le furent-ils ? Et que sont-ils devenus ? Eh bien, chers auditeurs, nous allons vous raconter leur histoire, leur destin, sans a priori et sans rien vous cacher. Vous y trouverez en matière au dégoût ou à l'étonnement, mais la ressemblance avec d'autres castes ailleurs, chez nous, vous semblera parfois frappante. Il est 17h un petit peu passé, voyageons de suite dans l'île du sabre et du thé, et retrouvons de suite les guerriers des rizières. Voici Historia, ce troisième année du mois, invité les samouraïs. Et nous commençons, chers auditeurs, par un avertissement. Nous avons essayé, autant que faire se peut, hein, voilà, nous avons essayé de respecter la tradition et l'usage japonais concernant tous les noms de ces numéros d'historiens. C'est-à-dire que chez eux, le nom familial arrive toujours en premier, le nom personnel en second, et parfois le prénom ou le surnom en troisième. Voilà, souvent c'est très long. Voilà, cela est dit. Et pour resituer les événements, notons que les samouraïs, un nom occidentalisé de samurai, apparurent entre les années 800 de notre ère et dominèrent le Japon environ 1000 ans, jusqu'aux alentours des années 1870. Oui, il y en avait encore, avec les réformes Meiji. Et c'est le plus étonnant, puisque aucune société asiatique, jamais, n'avait été dominée si longtemps par des guerriers. C'était des guerriers. Sens littéral, guerrier, du mot samouraï. Les Chinois furent dominés par des lettrés. Les Coréens, la Corée par le Yang-Gang. Tous dépendaient pour l'accessibilité à des postes ou hautes fonctions d'examinateurs. Et de toute manière, les uns comme les autres se sont toujours considérés bien supérieur aux militaires. Mais pas au Japon. Eh non, pas au Japon. La coupure, là-bas, intervient après des combats entre les clans Taira et Minamoto, à la fin du XIIe siècle. Combats qui virent des guerriers prendre le pouvoir. Le temps des guerriers était donc venu. Ils instituèrent une nouvelle forme de gouvernement politique, le shogunal, ou, en japonais, le bakufu. Il s'installera à Kamakura, à l'est du Japon, et donc bien loin de l'ancienne cour impériale de Kyoto. En fait, bien loin, je disais, c'est environ 500 km, ce qui est bien loin pour l'époque. Hein. Il n'y a pas de voiture. Hein. Soyons précis. Pour nous, en Europe, le samouraï représente la société féodale, hein, avec ses chevaliers en armure, son honneur, ses bannières, hein, fait tout ce qu'on voit dans les films, hein, évidemment. Mais justement, à cette époque, nous étions au Moyen-Âge. Eh oui, nous-mêmes. Hein, eh oui, nous-mêmes. Avec nos codes de chevalerie. Et tiens, c'est assez bizarre parce qu'ils se ressemblaient assez. Et nous y tenions, bien évidemment. La ressemblance entre la chevalerie de chez nous et les samouraïs de là-bas ne s'arrête pas là, puisque le terme même de samouraï dérive d'un ancien verbe japonais, saburafu, qui signifie en fait servir en japonais. Le samouraï était donc avant tout un serviteur, armé certes, mais un serviteur, un peu comme nos chevaliers qui servaient un noble ou un roi, un peu. Vers les années 1300-1400, certains paysans qui s'étaient enrichis devinrent des notables, portèrent sabre avec un cheval. On les appela zizamouraïs, les samouraïs de la terre. C'était des paysans. Les grands seigneurs, pour se différencier, s'appelèrent daimyo et constituaient deux catégories. Les fudai, vassaux de la maison Tokugawa, et les tazana, ceux qui furent vainquus par le shogun et se rallièrent donc à lui. Tous ces serviteurs, en fait, étaient tous quand même de haute volée. C'était un peu, si on fait un parallèle, la noblesse de chez nous. Voilà. Et les chevaliers qui les entouraient, constituèrent une élite qui devinrent les samouraïs, conduisant le Japon vers la modernisation. Nous sommes vers 1867, c'est pas si loin, hein. Où lever le guerrier faisait pas toujours la guerre, hein, au vrai, hein, pas toujours la guerre. Il fut aussi l'artisan du renouveau, l'artisan du destin d'un Japon moderne. Mais surtout, n'allons pas trop vite. Alors, comment sont nés ces fameux guerriers samouraïs ? Pour leur terre, le Japon, donc, celui-ci n'entra vraiment dans l'histoire qu'aux alentours des années 500 après Jésus-Christ, grâce surtout à la culture chinoise. Eh oui, à la culture chinoise. Écriture, religion, architecture, droit, administration, etc. Et j'en passe. Avant les années 500, quasiment rien sur cet archipel. C'est une île, le Japon, n'oublions pas ça. On ne savait quasiment rien d'eux. On ne savait même pas qu'ils existaient, en fait. Hein. Encore moins, alors, le Japon risque pas, mais alors encore moins sur ses habitants. Nous sommes vers les années 500. 100 ans plus tard, sous l'effet combiné de la démographie et de l'importation culturelle, naissaient les empereurs du Japon, notamment Temu, et l'impératrice Jito. C'est de là à définir un embryon de monarchie, c'est le premier, hein, avec une capitale, Nara, puis Eran, qu'on appellera plus tard d'ailleurs Kyoto. Hein, on l'appelle toujours Kyoto d'ailleurs. Le temps passe, et vers les années 850, ça passe assez vite quand même, hein, une famille monopolise les plus hautes fonctions, voire en crée de nouvelles d'ailleurs. Eux, comme nous, hein, ils en créent de nouvelles, pour eux évidemment, hein, pas pour les autres. Hein. La famille Fujiwara. Ce fut une période de stabilité politique, qui ne permit hélas pas au Japon de s'éveiller au plan culturel, c'est-à-dire de créer une culture, une vraie culture japonaise, propre à eux, avec une poésie et une littérature bien à elle. Ce faisant, les Japonais créèrent un système de syllabaires, lui permettant de transcrire leur propre langue, indépendamment du chinois. Il y avait une sacrée concurrence. Jusque-là, il n'y avait rien. Bien, ils transcrivent leur propre langue. Une immense, il faut le reconnaître, une immense avancée pour l'île. Si bien que les femmes, oui, les femmes, se retrouvèrent au centre de la création littéraire avec la poétesse Izumi Shikibu, la romancière Murasaki, Shikibu, ou l'essayiste, ça va être dur, hein, ou l'essayiste Sei Shonagon, dont les œuvres sont reconnues, mais encore aujourd'hui, internationalement reconnues, dans toutes les grandes bibliothèques. Oui, oui, mille fois oui. C'est un cours impérial avait su adapter tous les styles d'art et de politique, si bien qu'elle donnait les rangs, les titres et les honneurs. Une cour, on pourrait la qualifier de vraiment prestigieuse. Un prestige, au demeurant, qui servit à élever le niveau de vie et de puissance. Les fonctionnaires composant cette cour, l'aristocratie chez nous, si vous préférez, en quelque sorte, n'étaient pas armés, puisqu'ils n'étaient pas contestés. Ils n'avaient pas de raison d'être armés. Sauf que, le Japon, on vient de le voir il y a quelques secondes, s'éloignait vraiment du modèle chinois. Soit la bureaucratie, évidemment. Et cela n'avait pas que des avantages, parmi lesquels, c'est-à-dire, à contrario donc, les familles avaient à leur charge la conscription, l'armée en fait. Il fallait qu'avec leur argent, ils payent les soldats. Or, on le sait bien, partout ça a été comme ça, tout le temps, cette charge devient très vite, pour les plus pauvres, insupportable. Ils ne pouvaient pas se payer des armes trop chères. Et pour la plupart des paysans, la fuite ou la désertion était la seule issue, risquant ainsi, ou plutôt étant ainsi, obligé de vivre de rapine. Il y en a beaucoup qui se transformaient en brigands. Le système commençait à se déliter sérieusement. La seule solution trouvée fut une sorte de décentralisation. Les paysans devenaient les justiciables d'une propriétaire ou d'un seigneur, et non plus de la cour. Faut bien s'imprégner du contexte, et je vous redis la dernière phrase. Les paysans devenaient les justiciables d'un propriétaire ou d'un seigneur, et non plus de la cour. Ce fut un grand, grand pas en arrière, pour l'État japonais, et donc pour l'empereur. Beaucoup moins de pouvoir. Un nouveau phénomène, bien sûr, apparut très vite. Le kishin, soit, si vous voulez, la donation ou la recommandation de sa terre à un puissant. Plus puissant, bien sûr, un peu plus puissant. Une sorte de protectorat, on dirait maintenant. Le grand seigneur devint plus puissant. On l'appela le honjo. En échange, l'ancien propriétaire obtenait le droit, je dis bien héréditaire, c'est-à-dire transmissible, de gérer le domaine, percevait les redevances dues sur ses terres. Une sorte de prévôt, mais aujourd'hui on dirait un intendant, un titre franchement très très lucratif, on le voit bien. La fortune de la famille impériale du clan Fujiwara provenait ainsi de ses terres, et les religieux devinrent eux aussi de grands propriétaires fonciers, mais grands, d'où, là encore, leur richesse. Ils ont toujours été riches. Le pendant, évidemment, fut que les anciens donateurs, les intendants donc, étaient investis de titres administratifs qui leur conféraient une certaine autorité, une certaine puissance sur les habitants des terres gérées, et devenaient en quelque sorte de nouveaux seigneurs. Il y avait les proprios et les serfs chez nous. Ils s'entourèrent de leur propre armée pour faire régner l'ordre sur leurs terres, reléguant à, disons, peu à peu, les pouvoirs de l'État à pas grand-chose. Ils géraient vraiment leurs terres comme des seigneurs. En plus, on était loin, mais loin de la capitale, on l'a dit tout à l'heure, plus de 500 kilomètres. Plus les nouveaux seigneurs prenaient de liberté. Ah, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Comme toujours et comme partout. Petit à petit, ces prévôts ou ces intendants, comme vous voulez, se rassemblèrent sous la protection des plus influents ou des plus puissants d'entre eux, susceptibles de les protéger, par exemple. Ces notables donnèrent naissance à un nouvel ordre social, bien entendu, celui des guerriers, ou bushi, pour nous les samouraïs, lesquels faisaient la loi dans les campagnes. On devrait dire, le samouraï faisait sa loi, puisque dans les faits, les domaines devenaient de véritables seigneuries. Les seigneurs entretinrent donc à leurs frais des hommes d'armes qui se chargeaient, qui se chargeaient au besoin de terroriser les paysans. Ils refusaient de payer les redevances ou faire les corvées, samouraï, c'était toujours pareil. En contrepartie, ils recevaient des grades militaires, tout à fait factice d'ailleurs, faut pas rêver, puisque donné par le seigneur lui-même et non l'empereur, c'est toujours pareil, et non l'empereur. Mais, bon, écoutez, tout le monde s'en accommodait sans problème, tout le monde était heureux. Ces titres permettaient d'intégrer les paysans, on va dire, aisés, ou leurs fils, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient héréditaires, ou leurs fils, dans l'univers guerrier, avec la fonction d'un service d'ordre ou de protection, hein, en quelque sorte. Entre le seigneur et ses hommes, confiance, respect, compagnonnage. Vers les années 900, apparurent les premiers Bushidan, ou Ikusa. Les Ikusa, en japonais, on traduirait ça par des bandes de guerriers, évidemment. Ancêtres des armées privées, entretenues par des seigneurs, constituées de centaines, voire parfois quelques milliers d'hommes, en armes, toujours, hein, toujours en armes, et toujours sous l'autorité du seigneur local. Mais de petits notables, petits, assez riches quand même, firent de même, parfois, et se mirent en guerriers ou hommes d'armes, parfois. Bien sûr, de vastes alliances se nouèrent, notamment grâce à des princes de la descendance impériale qui, eux, n'avaient aucune chance de régner un jour, ça c'est sûr. En fait, ils étaient des aigris, hein, en somme. Mais quand même, qui bénéficiaient en province d'un fort prestige, tout de même. Souvent, ils devinrent les chefs incontestés de bandes de guerrières, notamment ceux des clans Kamataira et Seiwa Genji. Pour le premier, on les appellera plus familièrement les Taira. Le lignage donc des Taira, ou en japonais les Hei, était issu d'un prince impérial, Takomoshi, descendant de l'empereur Kaman. Pour les seconds, les Genji, le lignage provient de l'empereur Seiwa, et son descendant obtint le nom, écoutez bien, vous allez l'entendre souvent, le nom de Minamoto, ou Genji. L'arrière-petit-fils de l'empereur Kamu, le prince Taramoshi, prit le nom générique en 890 de Taira. Je vous rappelle que le clan s'appelait Kamu Taira. Ben lui, il prend le nom de direct Taira. et devint vice-gouverneur de l'Est du Kanto, le Kasura. Ce prince eut une vie bien remplie, bien remplie. Et après avoir mis ses fils sur les plus hautes marches de l'administration, ce qui lui coûta cher quand même, puisqu'en 935, suite à des problèmes d'héritage, Taira no Masakado tua son oncle et entra en rébellion, suivi par les 8 provinces du Kanto. Puis il prit le titre de Shino, traduction, le nouvel empereur, à peu près. Bien sûr, on comprend que ça ne plaît pas beaucoup à tout le monde, hein, en fait, à pas grand monde d'ailleurs. Surtout à la cour, qui passait pour des... J'ai mis des Pékins, c'est pas cool. Enfin, pour des Pékins. En réalité, le mythe de Masakado tient au fait qu'il est perçu comme une défiance à l'autorité, sa puissance étant vraiment éphémère, mais très très courte. Mais là-bas, comme ici, comme ailleurs, il semblerait qu'on aimât les rebelles. Et il en fut un. Oui, sauf que tout a une fin, eh oui. Et vers 940, soit à peine 5 ans après son accession à la rébellion, Masakado fut éliminé par des guerriers pro-empereurs. Mais aujourd'hui encore, hein, au Japon, on parle de lui comme d'un héros, un espèce de chevalier Bayard chez nous en quelque sorte, un véritable héros. Nous sommes à la moitié du XIe siècle, qui voit l'émergence des Bushidan, avec les guerres menées dans la province par les chefs de lignage Minamoto, des Seiwei Genji. Dans ces clans, hein, l'arc, puisqu'ils avaient des arcs et des armes, quoi, l'arc devenait une arme symbole, avec le cheval, et son habileté était essentielle. Mais une valeur primait sur tout le reste. Mais alors vraiment, on peut dire qu'elle faisait plus que primer. Cette valeur s'appelait la famille. Eh oui, les vertus guerrières, appelées plus tard, comme on l'a dit tout à l'heure, le Bushido, avaient pourtant cette même limite. Hein. Elles avaient aussi cette même limite. À la veille d'une bataille, pour ces guerriers, le choix était simple. Enfin, si on peut dire, soit la fidélité, soit l'intérêt de sa famille, qui comprenait la défense des terres, l'honneur et la renommée. Et là, c'est là que le bât blesse, car la notion d'honneur était perçue comme, on va dire, trop agressive. Voilà. Si le courage et la gloire faisaient l'admiration de tous, on le comprend, ils inspiraient aussi le dégoût par la violence engendrée. C'était très, très violent. En vérité, et elle est bien crue, aristocrates et gens du peuple méprisaient, je dis bien méprisaient, les samouraïs. Eh oui, les samouraïs, en fait, étaient méprisés. Vers les années 1050, soit à peu près, hein, grosso modo, là, soit la moitié du XIe siècle, la famille impériale fit preuve d'invention. Comme chez nous, hein, invention à son avantage, et pas à l'avantage des autres, il ne faut pas rêver non plus. Et crée une nouvelle pratique du pouvoir, celle dite des empereurs retirés. Ça c'est une drôle d'invention. Hein. Oui, la pratique des empereurs retirés. Alors là, ça, vous allez voir ça, c'est balèze, vraiment fort. De quoi s'agit-il au juste? Eh bien, l'empereur abdiquait au profit d'un de ses fils, voire un petit-fils, puis il entrait en religion. Il se faisait honre, il quittait le palais et puis il s'installait comme un ermite, il s'isolait. Ainsi, l'empereur créa une administration privée qui faisait de sa famille, hein, parce que c'était sa famille, enfant ou fils, petit-fils, etc., un substitut à la cour. Cette administration s'appela In no Sho. Ainsi retiré, donc libéré des obligations impériales, il n'était plus empereur, il pouvait influencer, conseiller, voire même décider ou proposer qui des nominations ou des lois à l'approbation du fiston ou du petit-fiston, c'est-à-dire à lui-même en somme. En fait, il gouvernait. Plutôt malin, quand même. Thank you. Plusieurs monastères, pour le coup, étendirent considérablement leur domaine et entretinrent des bandes armées, tonsurés, vêtus comme des moines, bref, des professionnels connus sous l'appellation de moines guerriers, des sokei. Nous dirions ici plutôt des hommes de main, hein. Soyons clairs, c'était des hommes de main, rien de plus, ou des mercenaires, quoi. Ce pouvoir nouveau avait pas mal de succès, si bien d'ailleurs que pas mal de Bushidan se proposèrent au bon vouloir un peu de l'empereur, on le redira souvent, de l'empereur retiré, hein. Il était retiré de rien de tout, mais c'est comme ça, de l'empereur retiré, lequel bien sûr les embaucha sans aucun problème, bien sûr. Ces troupes vivaient la plupart du temps aux portes du palais et l'ont pris pour habitude de les appeler sous le terme générique de porte nord, porte sud, etc., etc., suivant le lieu de leur cantonnement. Ces fameux Bushidan, protégeant donc l'empereur, étaient par définition proches physiquement, ce qui permettait de régler plutôt rapidement certaines affaires au plus haut niveau. Ils étaient même très proches. Du coup, les chefs guerriers s'élevèrent dans la hiérarchie impériale, du moins de sa noblesse, hein. Mais la médaille avait aussi son revers. Si le chef était renvoyé par l'empereur, alors tous les guerriers suivaient leur chef. Ils étaient tous virés. L'un de ces fameux chefs, Taira no Kiyoyomi, se distingua suite à des combats violents et pouvait désormais avancer dans la hiérarchie. Son ascension fut irrésistible. Et en 1167, il est nommé au titre le plus prestigieux ministre des Affaires suprêmes. Ça, c'est haut. Hein. Mais ce n'est pas tout. Il obtint aussi que le fils, alors là, attention, écoutez bien, il obtint aussi que le fils qui naîtrait, peut-être un jour, entre sa fille et l'empereur, soit à son tour empereur. Tout ça, c'est des hypothèses. Autant dire que le lignage Kiyoyenshi devenait un ascendant impérial, s'il avait un fils. Vous imaginez un peu le privilège, hein, c'est énorme. Donc les Taira, puisque c'est leur nom maintenant, on les appellera comme ça, j'ai dit, nommèrent à quasiment tous les postes de responsabilité des membres de leur famille. Si bien qu'à terme, hein, on l'a compris, hein, ils contrôlèrent 30, je dis bien 30, des 66 provinces, plus de la moitié du pays en fait, et possédaient en propre plus de 500 domaines. 500 domaines! Un peu comme si l'un gouvernait la moitié de la France. C'est un truc de fou, quoi. Vous n'allez pas le croire. Et redisons-le tout net, la noblesse les considérait comme des parvenus pour des gens qui géraient la moitié d'un pays. Enfin, néanmoins, les Minamoto prirent peu à peu le dessus, car leur vassalité était mieux structurée. Leur base principale était située dans la plaine du Kanto à l'est du pays. De plus, ils composèrent avec la cour impériale, qui vivait sur place, ces derniers jours sans doute, mais elle vivait sur place. Ces deux grandes coalitions guerrières, les deux grandes, s'affrontèrent en une guerre qui dura 5 années, 5 longues années, entre 1180 et 1185, lors de laquelle certains guerriers se mirent en valeur, pour les uns mêlés de respect, pour les autres de dégoût. Ces guerriers s'appelleront désormais les samouraïs. Et pourquoi ? Eh bien, parce que pour ces guerriers, rien n'était pire que de revenir sans gloire. Et il convenait donc de mettre en scène sa propre fin. C'était donc l'occasion de montrer aux dirigeants sa renommée, sa réputation, son honneur et, au-delà de tout, son courage. Un fait qui se passait toujours, je dis bien toujours, à l'issue de la bataille. C'est-à-dire à la fin, par le guerrier vaincu. Je le redis, à l'issue de la bataille, ou lors de la bataille, mais plus souvent à l'issue de la bataille qu'elle n'était vaincue, tout le temps vaincue. Redisons-le sans cesse, pour l'aristocratie, c'est fondamental, hein, faut bien comprendre ça. Nous, on a une image tronquée, biaisée. Pour l'aristocratie de la capitale, le samouraï n'était guère plus qu'une bête, pas davantage. Un vulgaire barbare, placé sous la direction d'un corito, d'un corio, on dirait plutôt aujourd'hui un parrain, hein, on dirait un parrain, hein, qui n'hésitait pas à faire le ménage autour d'eux, quitte à sacrifier, il sacrifie tout le monde, hein, père, frère, femme, enfant, tout le monde, hein, si nécessaire. Oui, c'était vraiment sous l'autorité d'un parrain. D'ailleurs, tous s'accordèrent à dire qu'ils étaient, si on faisait le parallèle avec maintenant, les historiens nous disent qu'ils étaient bien pires que les yakuza, les gangsters actuels, bien pires. Voilà, nous sommes presque aux années 1200. On a vu que l'aristocratie, le Japon, était né vers les années 500. Il y a à peine 700 ans de vie, hein. C'est très très court au niveau de l'histoire. Donc nous sommes dans les années 1200, en gros. Hein. Et le régime Kine, marque une véritable transition, puisqu'on bascule de l'ère des Heian à celle des Kamakura. Ou si vous préférez, on passe de l'antiquité japonaise, de l'antiquité au Moyen-Âge. Vous voyez le genre, voilà. C'est un petit pas quand même, un petit pas. Ainsi, pour être historique, la société japonaise, change d'air. Voici venu le Masamoyo, le temps des guerriers. Et la plupart d'entre eux se rangèrent sous la bannière Minamoto, qui venait de leur confirmer la pleine possession de leurs terres. Entendez par là des terres confisquées, évidemment, hein. Des terres confisquées aux gardiens, aux guerriers, qui n'étaient pas de son avis ou qui étaient un peu rebelles. Selon les virés, on prenait la terre, point barre. Les Taira, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux clans, hein. Les Taira et les Minamoto se livrèrent une guerre sans merci, on l'a dit aussi. Et le général Yoshitsune, c'était l'un demi-frère de Minamoto, ça va mettre une peignée aux Taira, ça c'est rare. Coule leur flotte à la bataille de Dan-no-Ura au printemps 1105. Et pour clore le débat, parce que là-bas ça se passait comme ça, mais un peu chez nous aussi, et pour clore le débat, ils liquident tous les chefs Taira, tous, au fil de l'épée. Au restant, ils n'avaient qu'un choix, on l'a dit tout à l'heure, eh bien l'honneur de se suicider. Très bien. Grande victoire, importante victoire des Minamoto. Il fallait absolument, très vite, profiter de cette gloire. En 1185, eut lieu un compromis historique entre le sieur Minamoto Yoritomi, maître des 8 provinces du Kanto, et la cour impériale, qui lui assura légitimité, pouvoir, puis aussi un petit peu prestige. L'air de rien, le Bakufu de Kamakura devint ainsi l'organe politique central de tous les guerriers. Alors, juste pour nos auditeurs, un petit rappel, le Bakufu est connu en français, sous le nom générique, vous l'entendrez sous le nom de Shogun. Là-bas, le Shogun n'existait pas, c'était le Bakufu, une traduction si vous préférez. Voilà. En 1192, pour longtemps après donc, Yoritomo fut nommé au titre de grand général, chargé de la pacification des barbares. Alors en japonais, ça donnerait quelque chose comme « Seiitai Shogun ». Pour faire plus simple, chers auditeurs, ce titre était quasi légendaire, hein, vraiment quasi légendaire, puisqu'il désignait celui qui exerce le pouvoir militaire dans le Japon au nom de l'empereur. Une espèce de maréchal supérieur peut-être, quelque chose comme ça. Bref, pour être simple, il faisait ce qu'il voulait. Militairement, une sorte de dictateur, mais désigné par l'empereur. C'est pas tout à fait pareil. Oh. Eh oui, il était quand même désigné par l'empereur. Et l'empereur, justement, désigné Go Shirakawa, autorisa donc Yoritomo à nommer dans chaque province un gouverneur militaire, à charge pour lui de faire régner l'ordre, évidemment, sous son autorité toujours. Ce gouverneur était bien évidemment à la solde du shogun, ou du bakufu, comme vous voudrez, du shogun, et outre l'ordre, il faisait rentrer l'argent. Il faisait rentrer l'argent dans les caisses du shogun, s'entend. Toutefois, le gouverneur à la solde bénéficiait de pas mal de privilèges, ça c'est exact. Il percevait une part, environ la moitié d'ailleurs, des redevances annuelles, des impôts si vous préférez. Cette charge était, on l'a dit aussi, héréditaire. Autrement dit, les terres qu'il gérait devenaient les siennes pour bien, bien, bien longtemps. Autant qu'il y aurait une génération, bien sûr. Tout ça peut sembler quand même à nous occidentaux plutôt disproportionné. Mais vu dans l'œil de la cour impériale, il en allait autrement. Avec ce système de privilèges, l'ordre régnait désormais dans les campagnes. C'est pas mal quand même, hein. Les brigands et les voyous de tout poil s'écrasaient mollement. L'argent rentrait même mieux dans les caisses. En somme, les deux parties, hein, l'empereur et le shogun, étaient satisfaits. Bah, tout va bien alors. Soyons pragmatiques tout de même. Pour l'empereur, ça n'avait pas coûté cher, puisque la plupart des terres ou des domaines avaient été quand même pris au taïra vaincu. Ça lui avait rien coûté, c'était déjà pas les siennes. Mais c'était ainsi. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Parce que concrètement, l'autorité réelle sur le Kanto, et plus généralement sur les provinces orientales, était assurée par Kamakura. L'empereur devenait, là, par exemple, un potiche. Et oui, il n'avait que la moitié, à peine. Et si l'on prenait le Japon vers les années, on va dire, 1200, on tirerait une ligne du nord au sud, droite, le Japon, on voit commencer, l'île est presque tout en longueur. Hein. Si on l'a coupé en deux, du nord au sud, on verrait à l'est le shogun et à l'ouest l'empereur. Vu autrement, hein, à l'est, l'armée et à l'ouest, la culture. Le shogun représentant les militaires, l'empereur représentant la culture et la tradition. Et l'on comprend dès lors pourquoi les samouraïs cultivaient leur identité guerrière pour masquer leur infériorité culturelle. Et oui, c'était des militaires. Ils étaient des militaires. Yoritomo avait épousé en 1177 une des filles Taira, Oho Masako, dont il eut pas mal de filles, mais surtout deux fils. Yoritomo disparut en 1199, disons 1200. Sa veuve joua un rôle central dans le shogunat, tant d'ailleurs que Ojo ou Oho devint une sorte de reine-mère, chez nous, si l'on veut, qui régnait donc sur les terres et sur les hommes de son défunt mari et de ses fils d'aujourd'hui. Véritable chef, on dirait au féminin, une chef de régence, jusqu'à sa mort en 1225. Alors on dit Ojo ou Oho Masako fut surnommée la nonne shogun. Et cela témoignait donc, on a parlé de la nonne shogun. Vous vous rendez compte, une femme guerrière, enfin, à la tête des guerriers, c'est énorme, quoi. Peut-être une sorte de première ministre maintenant, ce genre. Et elle témoignait donc d'une position nouvelle pour les femmes de classe guerrière. Du moins, en ce début, on a dit tout à l'heure qu'on le comparait au Moyen-Âge. En ce début de Moyen-Âge. Mais pas seulement, chers auditeurs. Ah non, pas seulement. Et vous allez être surpris. Vraiment surpris même, j'espère, en tout cas, d'apprendre qu'en ce Moyen-Âge, là-bas, il fallait bien se défendre, ou défendre, c'est bien, bien se défendre. Voilà, lorsqu'on était une femme et que les hommes se battaient ailleurs. Ainsi, à la période Kamakura, donc entre 1185 et 1333, un peu plus de 2 siècles, et que les hommes se battaient, il existe des femmes spéciales, et là-bas disait-il précieuses. Pas les précieuses, là-bas il disait précieuses. Pas vraiment des guerrières, mais attention, ultra dangereuses, ultra dangereuses. On les appelait les Ona Bugeisha. Et elles étaient vraiment très respectées, très respectées. En fait, la trouille des mecs, sans doute, la trouille des mecs. Elles étaient formées aux manières du Kaiten, le poignard, et au Naginata, la faux de guerre, une vraie faux. Hein. Et franchement, le voleur, hein, ou l'assaillant, savait où il mettait les pieds quand il convoitait son bien. Enfin, il savait les pieds, il mettait les pieds où il n'en avait plus après. Mais enfin, bon, bref. Mais il ne le savait qu'une fois pour toutes, croyez-le bien. Il n'y avait pas de deuxième chance. On attaquait ces femmes-là, c'était réglé. Elles étaient aussi redoutables que redoutées, aussi féroces que bienveillantes. Pas touche aux gosses ou à la maison. Point final. Enfin, toi, nos touches. Et le guerrier qui revenait chez lui après les combats était quasi sûr de retrouver sa maison intacte et un havre de paix. Ce statut particulier perdura jusqu'à la période Edo, qui vit son déclin pour être peu à peu renvoyé dans l'espace domestique. Hélas, pour toujours. Et c'est encore le cas. Mais en ce sens, je dis bien en ce sens, la culture nippone envers les femmes, et à cette époque, était de loin, mais alors loin, bien loin, en avance sur toutes les autres, et la nôtre compris d'ailleurs. Mais revenons à Masoko, ou Masoko, qui avait les idées fixes. Son clan, Yorimoto, était l'élément central de sa pensée et de son action, notamment les hommes, et elle n'eut de cesse de les promouvoir aux plus hautes fonctions, et ce, même aux dépens de ses propres fils, Yurii et Sanetomo, qu'elle fit éliminer sans vergogne. Ah oui, elle a éliminé ses propres enfants. Sans vergogne et sans état d'âme, sur l'ordre des Ojo. Son élan, ou son clan, donc, passait, on l'a dit tout à l'heure, avant toute considération, même devant la cour de Kyoto. Oui, oui, on pourrait la voir. En fait, les Nippons, les Japonais, la voyaient, elle, comme l'idéal de la femme, l'idéal, l'épouse du guerrier qui défendait les intérêts suprêmes de la famille. Ainsi se termine pour ce mois-ci la partie 1 de ce numéro d'Historia concernant les guerriers des rizières, les samouraïs. Merci à Damien pour ses recherches, à Lina et YouTube pour toutes les musiques, etc. À vous, chers et fidèles auditeurs, qui, en espérant quand même vous avoir informés, enfin, au moins intéressés en tout cas. Merci à Pierre-François Sourilly pour son livre sur le sujet du mois. Nous espérons vous revoir très prochainement, chers auditeurs. Alors rendez-vous le troisième vendredi dans Historia, même lieu et même heure. Bonsoir.